ta différence contre la mienne.
Comment réagirais-tu si tu apprenais que tes parents ne sont pas tes parents? Si tu te réveillais un matin dans ma situation?
Mon amour pour mes parents serait le même puisque ce sont eux qui m'ont élevée. Mais je pense que je chercherais à rencontrer mes parents biologiques pour leur demander pourquoi ils m'ont abandonnée. Tu n'as jamais eu ce désir?
Si demain mes géniteurs venaient me dire « c'est nous qui t'avons fait », je les écouterais. J'aurais pour eux la même bienveillance que vis-à-vis de n'importe quel individu. Mais ils ne font pas partie de ma vie et ne représentent rien pour moi. C'est terrible à dire, mais ils ne me concernent pas.
Tu n'aimerais pas savoir pourquoi tu as été abandonnée?
Bonne question. La réponse ne me paraît pas évidente du tout. Est-ce que j'ai dépassé cette interrogation à un point tel que je me moque de la réponse? À moins que je ne préfère tout ce que je peux imaginer au peu que je pourrais apprendre. Je crains fort que les raisons de mon abandon ne soient très simples, voire un peu sordides, en tout cas bien décevantes par rapport à ce que mon goût pour le romanesque exige de la vie et des destins. Je n'aime les histoires que dans trois cas. Soit elles me distraient en me faisant tout oublier, soit elles m'apprennent quelque chose, soit je peux y participer. Je crois que découvrir le scénario de mon abandon ne remplira aucune de ces conditions.
Tu as peut-être aussi un peu peur.
C'est possible. Mais alors, cela n'arrive pas jusqu'à ma conscience, pourtant plutôt accueillante. Mais je crois que mon attitude peut aussi venir d'autre chose. Tu es bien plus connu que moi. Tu vas comprendre de quoi je parle. Dès que tu as un public et que tu es réputé être bienveillant, les gens viennent se confier à toi et te raconter. Des femmes, des hommes de tous âges partagent avec moi des choses extraordinaires, épouvantables, fabuleuses. Ils le font en étant vrais, sincères, confiants, et cela me touche profondément. Le point de vue qu'ils m'offrent sur leur existence m'apporte une expérience, une connaissance dont je n'ai pas eu à payer le prix. Ils portent le poids de leur vie comme je porte celui de la mienne, et nous échangeons. Exactement comme un médecin qui ne peut pas s'écrouler en larmes à chaque cas grave, j'ai appris à faire preuve d'une distance presque thérapeutique qui me permet d'aider et de répondre en étant plus efficace. On ne perd pas l'émotion des situations, mais on ne s'y arrête pas. Tu as raison quand tu dis qu'il faut avancer. Au début, moi qui suis tellement empathique, je m'investissais dans leur vie. Je pleurais avec eux et je rentrais épuisé, bouleversé. Parfois très sombre à force de plonger dans ces réalités, car les gens se déchargent rarement de leur bonheur. J'avais l'impression d'écoper la mer avec une petite cuillère, et je sentais que le monde allait finir par me noyer. Tu es là, sur la plage, avec ta cuillère, à essayer de repousser le flot en souriant à tout le monde. Arrive un moment où tu es obligé de te protéger, de ne pas en faire ta propre histoire. J'ai beaucoup de croisades personnelles. Il y a des choses qui me tiennent à cœur et dont je me sens responsable, mais je ne peux pas prendre tout sur mes épaules. En suis-je vraiment responsable ou pas? Il y a des gens dont je me dis que je dois m'occuper car sinon, personne ne le fera. Là, j'interviens. Mais en l'occurrence, pour ceux qui m'ont fait, s'ils venaient me voir, je n'aurais plus le temps. J'ai suffisamment à faire avec ceux qui viennent à moi et pour qui je veux être là au maximum. Par contre, j'aimerais bien savoir si j'ai des frères et sœurs. Ce potentiel-là allume une fête foraine dans ma tête. Sans doute parce que je n'aurai jamais assez de frères et sœurs dans ma vie. Je suis affamé de fraternité. Pour moi, il existe une notion de famille liée à un attachement. J'aime énormément fonctionner en équipe. Je me débrouille très bien tout seul, mais je trouve que rien n'est plus beau que de partager et d'accomplir avec des gens qui te sont proches. Ce serait ça, le moteur pour moi. Je me suis posé la question, et ça m'a tourné dans la tête pendant 3 jours, de savoir ce que serait ma vie si je mesurais 1m32. Toi, tu peux réfléchir à ce que ça te ferait d'être fille adoptive, mais en fait, la permutation est impossible. Prendre chacun la place de l'autre, intellectuellement, émotionnellement, avec tout son vécu, n'est intrinsèquement pas possible. Je ne peux pas intégrer ta situation. La seule chose qui soit à ma portée, c'est un miracle dont ce livre est un exemple, c'est d'en parler avec toi. Je peux échanger. C'est la quintessence de notre sentiment. Parce qu'on n'échange pas notre expérience proprement dite. Tu ne peux pas comprendre le chemin que j'ai fait. Et moi, je ne peux ni comprendre ni ressentir le tien. C'est justement pour cela que cet ouvrage est intéressant. On ne peut échanger ni nos peurs, ni nos différences. En revanche, on peut se dire ce que nous avons appris. Il est possible d'en parler et de trouver des chemins au-delà de la définition même de la différence, pour mettre au jour le mécanisme, le regard que cela déclenche. Ce n'est pas tant la différence qui compte que la façon de la vivre. Ce qui en fait une faiblesse, une force ou un élément neutre, c'est le regard que tu portes sur le mécanisme que ton décalage déclenche chez les autres. Dans mes romans, j'arrive à me glisser dans la peau de personnages que je ne suis pas du tout. Plus âgés que moi, d'un autre sexe, dans d'autres lieux. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais quand ça devient si intime, si particulier, c'est impossible. Parce que pour comprendre l'autre, il faut échanger avec lui et disposer d'une masse d'informations infinie dans laquelle piocher. Toi, tu détectes immédiatement les gens qui te ressemblent quand ils viennent te voir, parmi le public, dans tes spectacles ou dans la vie. Mais moi, je ne les vois pas venir. Les gens hésitent à vraiment parler de leur propre abandon, même à quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Par contre, ils se font une idée de l'adoption, et entendre quelqu'un qui en a une expérience leur dire que ça peut très bien se passer, bien se vivre, les décoince et les aide à se décider. Toi, qu'as-tu entendu qui t'a marqué, outré, emballé, séduite, dans l'idée que les gens se faisaient de ta condition?
On parle bien sûr de ma taille. Je ne sais plus si je t'ai raconté la genèse d'une nounou pas comme les autres, un projet que j'ai initié. Une boîte de production m'avait fait passer le message que France 2 recherchait une idée de téléfilm avec quelqu'un comme moi et me demandait si j'en avais une à proposer. En 2 jours, j'ai posé les bases du scénario d'une nounou pas comme les autres, un mélange de Mary Poppins et de La Mélodie du Bonheur, sans la musique et à la française. Je le leur envoie et, au bout de 15 jours, ils me répondent que ce n'est pas du tout ce que recherche la chaîne. Ils veulent une histoire sur la vraie vie de quelqu'un comme moi qui partage un appartement avec des copines, avec les situations et les engueulades qui en découlent forcément. Je réplique que moi qui mesure 1m32, ce n'est pas du tout à ça que ressemble ma vraie vie. Ils m'ont demandé d'écrire quelque chose de réaliste par rapport à ma vie quotidienne. Et c'est ce que j'ai fait. Le fait de ranger les casseroles trop haut ou trop bas n'a jamais déclenché de guerre avec mes colocataires. Ils ont fini par me faire comprendre que France 2 trouvait que ça n'illustrait pas assez le rejet fort par rapport à ma différence. Je n'étais pas du tout la bonne personne pour ça. Je laisse donc tomber. Au cours d'un dîner amical, j'en parle à Jean-Pierre Cassel, que j'avais la chance de bien connaître et qui était justement en train de tourner pour cette chaîne. Il s'étonne de ce refus du projet, car il le trouve aussi excitant qu'inédit. Il en parle à Didier Decoin, alors responsable de la fiction, qui avoue n'avoir jamais eu le projet en main. Mon agent et ami, Gilles Merlet, le contacte immédiatement. On le rencontre, je lui raconte. C'est exactement ce qu'il cherchait. En une semaine, ça a été signé. Chaque fois que je croise la productrice qui m'avait signifié le refus, elle me dit en riant « Je sais que j'ai fait la connerie de ma vie, n'en rajoutez pas, Mimi. »
À titre plus privé dans ton quotidien, des gens t'ont-ils parlé de l'idée qu'ils se faisaient de toi ? As-tu subi un regard préconçu sur ce que peut être ta situation par des gens qui ne la vivent pas ?
Plusieurs fois, et j'ai vécu l'un des exemples les plus emblématiques avec une journaliste d'un journal Tendance Intello, qui daignait me consacrer 6 pages et la couverture. Cette journaliste, que j'aime beaucoup, ne voulait pas croire que je n'avais pas souffert pendant mon enfance. Elle ne croyait pas non plus que je me mettais en maillot de bain sans problème sur une plage parce qu'elle-même a du mal à le faire, alors qu'elle est normalement constituée.
L'idée, là encore, c'était d'aller chercher le malaise.
Non, mais elle a eu beaucoup de mal à comprendre que je n'avais pas souffert plus que ça. Elle m'a même rappelé plusieurs fois en insistant « Je suis en train de rédiger le papier, mais il y a forcément quelque chose que vous avez mal vécu. » Je lui ai dit que j'avais pleuré comme tout le monde, que j'aurais voulu embrasser des garçons plus tôt, mais rien de plus. Si j'avais triché, si je n'étais pas telle que je semble être, si je jouais un rôle ailleurs que sur les plateaux ou sur les scènes, je n'aurais pas pu tenir aussi longtemps. Ce désir de se voir confirmer que quelque chose a forcément été mal vécu provient davantage d'un malaise de la personne elle-même, quelqu'un qui est mal dans sa vie calque sa façon de voir sur les autres. Au sujet de ton idée de se projeter dans une autre vie, par rapport aux différences, je pense à ma maman. Il y a 3 ans, elle a perdu la vue. Je ne peux m'empêcher de me dire « et si cela m'arrive ?» J'essaie de m'imaginer dans cette situation et je me dis en mon fort intérieur que rien de pire ne pourrait m'arriver. Alors que, extérieurement, je m'efforce de réconforter maman en lui disant « ne t'en fais pas, on est là !» Si je perdais la vue, je ne pourrais plus lire, plus écrire, plus travailler de la même façon. C'est un des accidents de la vie qui me font le plus peur. Bien sûr, maman avait 83 ans quand ça lui est arrivé, mais je trouve ça terrible.